Andol, l'homme qui savait tout. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Une conviction funeste et monstrueuse a envahi presque tous les esprits, selon laquelle personne ou presque ne doit philosopher. Comme si, avoir exploré ce que nous avons sous la main et sous les yeux, les causes du réel, les voies de la nature, la raison de l'univers, les desseins de Dieu, les mystères des cieux et de la terre, tout cela n'était rien tant que l'on n'en peut espérer ni faveur, ni salaire.
On en est arrivé, hélas, au point que ne sont plus estimés sages que ceux qui font de l'amour, de la sagesse, une œuvre mercantile. Si bien que nous pouvons voir la chaste Pallas, envoyée parmi les hommes en don de Dieu, chassée, sifflée, en but aux risées. Elle n'a personne pour l'aimer, pour l'aider, à moins de rapporter dans la cassette de son amant un argent mal acquis, comme une prostituée qui reçoit le maigre salaire de sa virginité déflorée.
Que Voltaire, un peu jaloux, l'avait surnommé l'homme qui savait tout et même un peu plus. De fait, quand il meurt, à 31 ans, dans des circonstances douteuses et qui marquent, en novembre 1494, la fin de la première Renaissance italienne, Jean Pic de la Mirandole ignore probablement moins de choses qu'il n'en connaît. La vie de Pic est un roman qui mêle au jeu des amants la gravité des philosophes et les poèmes d'amour à l'exégèse des psaumes. Le petit homme n'a pas 5 ans, le jour où il découvre qu'on ne boit que quand on a soif, mais qu'on peut lire toute la journée, et où, l'âme altérée, il se met à dévorer Dante, Homère, Pétrarque et la Bible. Il n'a pas 10 ans qu'il est déjà protonotaire apostolique, prince des orateurs et des poètes. Dès qu'il possède à 16 ans la maîtrise du droit canon, le bois sans soif se propose d'acquérir la science universelle et parcourt alors la France et l'Italie, étudiant les lettres à Ferrare, avec et contre Savonarole, apprenant la philosophie à Padoue, le grec à Pavie, l'amour à Arezzo puis l'amitié à Florence, auprès de Marcile Ficin et Laurent le Magnifique, incorporant, au hasard de ses rencontres, le Coran, la Kabbale, Hermès, Avicenne, Maïmonide et les oracles chaldéens. Enfin, le prince de la Concorde a juste 20 ans quand il hérite de la première fortune d'Italie et se promet une fois pour toutes de donner au savoir ses lettres de noblesse. On l'a dit néo-platonicien, scolastique, avéroïste, mage, encyclopédiste, païen, chrétien, orthodoxe et hérétique à la fois. À quoi sert toute ma philosophie, répond-il, si je ne vois pas les choses les plus simples? À dire vrai, le jeune homme que les femmes adorent, que la papauté condamne et que le savoir intéresse plus que les savants, est, malgré elle, ce que l'Église a fait de mieux, ou la figure singulière et pas si fréquente à l'époque, d'un christianisme accueillant, d'un culte hospitalier. Sans langue, dit-il, nous pouvons vivre, mais d'aucune manière sans cœur. Une sagesse sans éloquence peut être utile, une éloquence stupide est comme un glaive entre les mains d'un fou. Aussi Pic de la Mirandole, à qui rien de ce qui est humain n'est étranger, fait-il paraître à Rome, en décembre 1486, 900 conclusions sur les sujets les plus graves, où il réconcilie Platon et Aristote, la philosophie et la théologie, ou encore l'un et le multiple. Une véritable déclaration d'amour au savoir, assortie d'un appel à controverse publique, au terme duquel il invite à son banquet et à ses frais la crème, le gratin, la fine fleur et les huiles des théologiens et des philosophes. Seulement il arrive même en Italie que Dieu soit le diable et le pape son serviteur. Ce dernier suspend les débats dès janvier 1487. Une commission d'imbéciles condamne 13 propositions. Pic est reconnu comme hérétique et l'ordre est donné en août de brûler ce trésor. Mais c'est une même louange, écrit-il à son neveu Jean-François, que d'être loué par qui est digne de louange et blâmé par qui mérite le blâme, car beaucoup sont chrétiens par le nom, mais bien peu le sont par la chose. Le Dieu de Pic est l'autre nom de la liberté, mieux vaut l'aimer que le craindre. Les conclusions de Pic devaient être précédées d'un texte lumineux qui ne sera jamais lu et qui paraîtra posthume il y a 500 ans, en 1504. Le discours sur la dignité de l'homme, cathédrale de toutes les sciences, ancêtre de l'encyclopédie, dont nous parlerons aujourd'hui avec Didier Ottaviani, philosophe et spécialiste entre autres du Quattrocento.
Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature. Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, l'ayant placé au milieu du monde, et lui parla ainsi.
Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces sans des lois par moi établies, mais toi que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur.
Cette conception de l'humain, qui est une conception profondément moderne, au sens rousseauiste du terme, on pourrait dire que chez Pic, comme chez Rousseau 300 ans plus tard, ou quasiment, l'homme est celui qui peut s'affranchir des déterminations qui sont les siennes et constitue une liberté. Et pourtant, il faut savoir hériter pour savoir s'affranchir de ce dont on a hérité. Cette définition très novatrice de la liberté de l'homme à l'époque où il l'écrit, cette définition-là s'articule autour d'un sens de l'héritage.
Pic s'inscrit en quelque sorte comme révélateur d'une crise qui est née essentiellement, en tout cas qui a été manifestée clairement, à la toute fin du XIIIe siècle.
Didier Ottaviani.
Il faut peut-être faire un très rapide historique sur cette histoire, mais il faut voir que l'arrivée des textes aristotéliciens dans le monde latin a été faite par tout un ensemble de commentaires qui se produisent essentiellement autour des centres de traduction que sont Cordoue, Tolède, bref, dans le monde musulman de l'Espagne de l'époque, et lorsqu'arrivent les textes aristotéliciens, eh bien, arrive en même temps l'ensemble des commentateurs arabes. Donc, on voit arriver progressivement une crise, entre guillemets, à l'intérieur de la chrétienté, puisque nous avons un ensemble de penseurs sur lesquels il faut s'appuyer, les Grecs, mais en même temps, nous avons ces Arabes qui nous livrent la pensée des Grecs et qui l'ont très amplement transformée. Et les médiévaux vont, du moins à la fin du Moyen-Âge, vont avoir énormément de problèmes à intégrer cet héritage multiple. Et ils vont essayer justement de l'endiguer en condamnant énormément de thèses. Et c'est ce qui se produit notamment en 1277, où Étienne Tempier, qui est l'archevêque de Paris, va condamner 219 propositions qui sont jugées comme étant hérétiques, qui sont souvent des propositions philosophiques que l'on va trouver chez les aristotéliciens, entre guillemets, bon, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est des courants très différents, mais qu'on peut trouver également chez des gens comme Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que on se rend compte que finalement, même ceux qui sont considérés comme les théologiens, disons les plus stricts, comme Thomas, eh bien, sont des gens qui véhiculent
aussi, passible d'hérésie.
Passible d'hérésie, ou du moins dans certaines de leurs formulations, le risque hérétique continue à exister. Alors, cette crise médiévale, la Renaissance en hérite. Et bien entendu, Pic en hérite lui aussi. Et donc, il va se trouver confronté d'une part à une multitude de textes qui sont d'origine arabe, hébraïque, qui sont également des textes grecs, qui sont finalement toute la tradition philosophique dans sa grande diversité. Et il faut justement essayer d'éviter la crise qui a secoué la fin du Moyen-Âge et ne pas essayer de passer par un ensemble de condamnations, mais plutôt voir si l'on peut harmoniser les différentes voies. C'est dans ce sens, à mon avis, où Pic reprend quelque chose qui était le projet de Dante. Projet qui était particulièrement manifeste, à mon avis, dans la Divine Comédie, c'est-à-dire essayer de faire parler de multiples voix, parce que dans la Divine Comédie aussi, si on regarde le parcours des trois royaumes, on rencontre à peu près tous les philosophes, tous les théologiens, bref, tous les grands penseurs que Dante a pu lire et auxquels il a pu être confronté. Et il essaye de les harmoniser. Alors il les harmonise au cours d'un trajet, au cours d'un voyage poétique, et à partir de là, réussit finalement à les faire parler d'une seule voix. Pourquoi ? Parce que il va les réinterpréter à partir de d'une position qui sera une position chrétienne, et il va montrer finalement que si l'on ne peut, par exemple, si on prend un cas particulièrement, disons, dangereux, comme celui de la doctrine d'Averroès, Averroès, eh bien, représente une hérésie considérable, disons, à l'intérieur du monde médiéval. On peut néanmoins récupérer en quelque sorte des morceaux d'Averroès, puisque dans certaines de ses argumentations, il a donné des arguments, il a donné des démonstrations qui peuvent être réutilisées. On peut donc, d'une part, en quelque sorte rejeter les erreurs d'Averroès.
Ou de sa personne.
Ou de sa personne, mais on peut récupérer certaines de ses démonstrations, on peut récupérer certaines de ses affirmations qui continuent à être valides et qui peuvent être neutralisées à partir du moment où on les regarde d'un point de vue, par exemple, chrétien.
Alors, il les regarde d'un point de vue chrétien, mais en même temps, en lisant le texte, on a l'impression que toute la vérité l'intéresse. Donc, ce regard chrétien n'est pas moins universel.
Il y a dans chaque école quelque chose de remarquable qui ne lui est commun avec aucune autre. Et pour commencer par les nôtres, à qui la philosophie est parvenue en dernier lieu, il y a chez John Duns Scott quelque chose de vigoureux et de tranchant, chez Thomas d'Aquin, de solide et de pondéré, chez Gilles de Rome, de net et de précis, chez François de Mérone, de perçant et d'aigu, chez Albert le Grand, d'originel, d'ample et de majestueux, chez Henri de Gand, à ce qu'il m'a semblé, quelque chose de toujours sublime et vénérable. Et parmi les Arabes, il y a quelque chose de ferme et d'inébranlable chez Averroès, de grave et de médité chez Al-Farabi, de divin et de platonicien chez Avicenne. Les Grecs, dans leur ensemble, ont d'abord une philosophie claire et pure. Elle est chez Simplicius riche et ample, chez Pénestius élégante et brève, chez Alexandre d'Aphrodise, constante et savante, chez Théophraste, gravement élaborée, agile et agréable enfin, chez Ammonius.
Oui, ce regard chrétien, bien sûr, n'est pas moins universel, dans la mesure où il s'agit d'orienter en quelque sorte toutes ces doctrines vers quelque chose qui apparaît chez Pic, qui est une sorte de théologie finale ou une remontée vers Dieu qui va permettre de réunifier en quelque sorte cet ensemble de philosophies naturelles disparates. Néanmoins, ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est de voir que Pic va réussir à introduire une discussion entre des champs philosophiques qui relèvent de la philosophie naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la démonstration, qui relève de la discussion sur les choses de la nature, et s'appuyer sur cette philosophie naturelle pour tenter de remonter vers une dimension qui sera la dimension de la foi. Donc il est possible, en quelque sorte, de donner une direction commune à des textes qui, finalement, n'avaient pas cette direction en eux-mêmes.
Sans les trahir.
Sans les trahir. Alors, c'est de fait une certaine trahison, mais ce n'est pas, disons, gardons les guillemets autour de trahison, il s'agit plutôt d'une interprétation. C'est-à-dire que ce qu'a compris Pic, et ce qui a été la grande découverte de ces crises médiévales, c'est tout simplement que le philosophe se doit d'interpréter son héritage. C'est-à-dire qu'il n'est pas héritier comme héritier d'un bloc de savoir, il est héritier d'un ensemble de textes, mais qui sont des textes interprétables. Et chez Pic, c'est particulièrement manifeste du fait de son intérêt pour la Kabbale. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Qu'est-ce que c'est que cette influence des Hébreux? Eh bien, c'est une influence qui est d'abord celle du texte, mais d'un texte à interpréter. C'est-à-dire qu'il va récupérer dans cette tradition...
Oui, parce que le texte de la Kabbale se donne comme lui-même comme une interprétation à interpréter.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le recomposer en permanence. Disons que le véritable trajet à l'intérieur de la Kabbale, c'est un trajet interprétatif, et il suppose une construction de l'homme qui est parallèle à la lecture. C'est-à-dire, c'est en interprétant le texte, en le recomposant, en le réorganisant, que l'on va pouvoir véritablement se créer comme individu, en produisant, en quelque sorte, une nouvelle forme de pensée, qui ne vaut, en quelque sorte, que par l'élan interprétatif.
Les bêtes, au moment où elles naissent, portent en elles, dès la matrice de leur mère, comme dit Lucilius, tout ce qu'elles auront. Les esprits supérieurs ont été dès le commencement ou peu après ce qu'ils seront à jamais dans les siècles des siècles. Mais dans chaque homme qui naît, le Père a introduit des semences de toutes sortes, des germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun a cultivés croîtront et ils porteront des fruits en lui. Si ces germes sont végétaux, il deviendra plante. Sensitif, il deviendra animal. Rationnel, il se fera âme céleste. Intellectuel, il sera ange et fils de Dieu. Qui n'admirerait ce caméléon que nous sommes? Et sinon, qui admirera davantage quoi que ce soit d'autre?
Dans une lettre de 1485 à Barbaro, Pic, à qui la nudité des femmes donne le goût d'un savoir sans apparat, écrit « La philosophie s'offre nue et visible tout entière, elle veut être tout entière sous les yeux et offerte au jugement. Tout ce que tu en caches, c'est autant de beauté que tu caches, et d'autant tu fais diminuer sa gloire. Elle veut être prise, pure et intègre, tout ce que tu y ajouterais la corromprait, l'altérerait, la transformerait. » Rien de trop donc, mais y a-t-il une philosophie de Pic de la Mirandole, une pensée qui soit propre à l'ami des penseurs? D'autres avaient déjà parlé de dignité, et lui ne fait enfin que dire ce que d'autres ont pensé. Le fait est pourtant que Pascal lui devra le sentiment mêlé de la misère et de la grandeur de l'homme. Leibniz lui devra sa monadologie. Rousseau l'idée d'inachèvement et de perfectibilité. Descartes le refus de la pensée magique. Spinoza l'idée de l'amour intellectuel de Dieu. Mais tous, ou presque surtout, retiennent de l'omniscient que ce n'est pas la culture mais la pensée qui fait de nous des hommes, qu'il faut débattre au lieu de se battre, qu'on peut admirer quelqu'un sans le suivre, que l'homme est un nouvel ange dont le mauvais jugement est moins grave que tout ce qui en ce monde est vanité, qu'il faut embrasser enfin le plaisir sans qu'il nous étrangle, se nourrir des richesses sans qu'elles nous empoisonnent, et se méfier du corps mais sans jamais vendre son âme.
Si tu vois un homme livré à son ventre, rampé par terre, ce n'est plus un homme que tu vois, c'est une plante.
Si tu vois quelqu'un aveuglé comme par Calypso dans les 20 mirages de la fantaisie et asservi au sens dans l'entraînement de séduction qui le détruisent, ce n'est pas un homme que tu vois, c'est une bête.
Si tu vois un philosophe qui discerne toutes choses selon la droite raison, vénère-le. Ce n'est pas un animal terrestre, c'est un être céleste.
Si tu vois un pur contemplateur oublié de son corps et retiré dans le sanctuaire de l'esprit, ce n'est plus ici un animal terrestre ni un animal céleste, c'est une puissance divine revêtue de chair d'homme.
Qu'une sainte ambition envahisse notre esprit pour que, sans nous contenter des choses médiocres, nous aspirions aux plus hautes, et appliquions toutes nos forces à les atteindre, puisque, du moment que nous voulons, nous pouvons.
Finalement, Pic reste dans une tradition médiévale qui est une tradition, somme toute, assez classique. Assez classique, puisque, par exemple, tout le début du discours sur la dignité de l'homme consiste en un ensemble d'affirmations qui sont des affirmations que l'on retrouve dans les textes de la fin du Moyen-Âge. Le fait que l'homme soit cette espèce de nœud, ce lien de toute la création, c'est-à-dire qu'il ressemble à la fois aux minéraux dont il est composé, mais aussi aux végétaux, aux animaux, et bien entendu, en plus de cela, il a la raison, c'est-à-dire quelque chose qui va le faire dépasser toutes les choses strictement naturelles, le hisser vers le surnaturel et le divin. Donc cet homme-là est un lien de toutes les choses, et finalement, eh bien, c'est une affirmation que l'on retrouve un petit peu partout. On la trouve notamment dans un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de Bernard Sylvestre, au XIIe siècle, qui a été traduit en français sous le titre de Cosmographie, dans lequel, eh bien, il va essayer de montrer que l'homme est un microcosme, c'est la fameuse thématique du rapport entre microcosme et macrocosme, c'est-à-dire qu'il y a un macrocosme, l'ensemble de l'univers, et l'homme est un petit monde, qui résume en quelque sorte toutes les merveilles de l'univers.
Ce qui justifierait la place privilégiée qui lui est faite dans l'ordre de la création.
Voilà. On va l'appeler le vinculum, le lien, celui qui est capable eh bien, d'unifier le terrestre et le céleste. Et c'est même là son rôle, c'est-à-dire qu'il doit élever, autant que faire se peut, toute la dimension terrestre vers l'idéal céleste qui est le sien et qui l'attend une fois qu'il aura perdu le lien avec son corps.
Transformer l'animal en ange.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une optique, effectivement, qui est quasiment alchimique, où il faut élever la matière vers quelque chose de plus noble, qui est la pensée, et qui ne pourra être atteinte, évidemment, pleinement qu'après la mort. Là où Pic va être un petit peu différent, c'est cette affirmation qu'à l'intérieur de cette espèce de cosmos qui est extraordinairement organisé, puisque c'est un cosmos hiérarchique, c'est ce qu'on va appeler une ontologie scalaire, c'est-à-dire une doctrine
par degré, par échelle, comme une échelle.
Voilà, comme une échelle, c'est-à-dire que l'on part du plus bas, le matériel, et on remonte vers Dieu, évidemment, qui est en quelque sorte le sommet de l'échelle, qui est extérieur à l'échelle, puisqu'il la crée. Et l'homme se trouve au milieu, entre les anges et les animaux.
Alors il dit ceci, hein, je vous interromps une toute petite seconde, il dit, si tu vois un homme livré à son ventre rampé par terre, ce n'est plus un homme que tu vois, c'est une plante. Et puis, une page et demie plus loin, il parle des séraphins, des chérubins, donc des anges, et il dit, pour nous, incapables désormais de leur céder en rien, insatisfaits des secondes places, cherchant à égaler leur dignité et leur gloire. Donc c'est le même individu qui peut se traîner avec son ventre par terre et égaler les anges en gloire.
En quelque sorte, on pourrait dire que être humain se mérite. Donc le mérite chrétien se trouve ici.
On ne naît pas homme, on le devient.
On le devient, exactement. C'est-à-dire que on naîtra homme en puissance. Maintenant, à chaque individu d'actualiser ou non ses puissances. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de considérer qu'à partir du moment où on est humain, nous avons une dignité particulière, parce qu'il suffit de ne pas faire usage de sa raison, il suffit de vivre comme les bêtes, pour être finalement des quasi-bêtes. C'est ce que va dire Dante, notamment dans son banquet, c'est-à-dire il va dire, eh bien, ces hommes-là qui n'utilisent pas la raison seront quasiment des bêtes. Alors le quasiment est important parce que ce ne sont pas des bêtes.
Oui, parce qu'ils ont une chance de ne pas le rester.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils pourraient encore actualiser les puissances de leur intellect, ils pourraient réaliser, en quelque sorte, leur dignité humaine. Mais néanmoins, pour des raisons diverses, certains ne le feront pas, et ce seront des brutes, et à ce moment-là, ils ne vaudront, on pourrait dire, même pas l'animal. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si on a reçu en don, eh bien, la possibilité d'être ange, et que l'on s'en tient uniquement à la bestialité, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons aucune dignité, aucun mérite. C'est-à-dire que le plus grand mérite de l'homme, c'est en fonction de ce qu'il a reçu, par exemple, par éventuellement des déterminations astrales, puisqu'il est né en tel ou tel lieu, donc les astres sont penchés plus ou moins sur son berceau, mais en fonction de ce qu'il a reçu, eh bien, il doit actualiser au maximum ses potentialités. On pourrait dire, par exemple, qu'il y a des individus qui sont nés avec,
pour reprendre, moins de fées penchées sur leur berceau.
Voilà, avec une grossièreté de matière, comme on a tendance à dire à l'époque, et donc ceux-là auront du mal, évidemment, à actualiser toutes les possibilités de l'intellect.
Néanmoins, ils en sont responsables quand même.
Oui, mais disons que s'ils actualisent ce dont ils étaient capables, quand bien même cette actualisation sera limitée, ils auront néanmoins un très grand mérite, et donc seront sauvés comme des hommes très méritants.
C'est ce qu'il dit, il dit qu'une sainte ambition envahisse notre esprit pour que, sans nous contenter des choses médiocres, nous aspirions aux plus hautes et appliquions toutes nos forces à les atteindre, puisque du moment que nous voulons, nous pouvons.
Exactement, c'est-à-dire que ce que va traduire Pic ici, c'est qu'il ne faut pas rester dans un déterminisme du legs, mais que finalement, nous avons une volonté. Et cette volonté, eh bien, est en quelque sorte infinie, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous élever, peut-être, jusqu'à la condition angélique. Alors, à la fin du Moyen-Âge, il y a quand même des limites, puisque certains hommes peuvent atteindre l'état de prophétie, mais il faut qu'ils soient particulièrement bien nés pour pouvoir réaliser ce don. Néanmoins, eh bien, nous pouvons espérer, en quelque sorte, une, entre guillemets, divinisation, c'est-à-dire une remontée vers la nature des intelligences, et même si nous n'arrivons pas au terme, eh bien le simple fait de vouloir et de tenter de remonter vers cette perfection est déjà, en quelque sorte, un moyen d'être sauvé et d'accéder au plus grand mérite.
Qui ne souhaiterait être initié à de tels rites ? Qui ne voudrait laisser de côté toutes choses humaines ? Mépriser les biens de la fortune, négliger ceux du corps, pour devenir le commensal des dieux alors qu'il est encore sur terre, et être mortel, imprégné du nectar de l'éternité, recevoir le don de l'immortalité.
Qui ne voudrait être inspiré de ce délire socratique chanté par Platon dans le Phèdre, fuir rapidement d'ici, du monde qui est sous la domination du malin, se porter d'un vol prompt par le mouvement des ailes et des pieds à la Jérusalem céleste.
Donner à l'homme la double possibilité d'être animal ou d'être ange, et donc lui donner finalement en héritage, avec tout ce qu'il sait, la responsabilité de devenir un ange, proposer à l'humain de transcender sa condition particulière ou fangeuse pour atteindre aux plus hautes vérités du savoir comme de la morale, font de Pic ce qu'on appelle au sens littéral du terme, je pense que vous serez d'accord, un humaniste. Pourtant, ce mélange de détermination et de volonté, d'héritage et de responsabilité, on le trouve déjà, arrêtez-moi si je me trompe, au livre 10 de la République de Platon, quand dans le mythe d'Ère le Pamphylien, Platon montre que nous avons, avant d'être incarnés, avant de descendre sur Terre, finalement toutes les vies en partage, et que nous sommes responsables du choix que nous faisons, de la vie qui nous attend. En d'autres termes, à la fois on reçoit notre destin, et en même temps on est l'artisan du destin qu'on reçoit. Est-ce qu'on retrouve cette problématique chez Pic ?
Oui, on retrouve cette problématique dans la mesure où il s'agit toujours d'inscrire l'homme à l'intérieur d'une théorie de la responsabilité, effectivement. C'est-à-dire que, en effet, comment être sauvé si on n'est pas responsable ? Comment être méritant si on a tout reçu en héritage ? Donc là, le problème vient essentiellement du fait que il s'agit de penser que nous pouvons appeler cette responsabilité, c'est-à-dire quelque chose qui donne à l'homme les clés de son destin, mais qui pour autant n'est pas un fatum, c'est-à-dire que ce n'est pas un destin...
Un fatum au sens d'un destin absolu, d'une parole qui se réalise...
Voilà, Dieu n'a pas prévu, en quelque sorte, de nous mettre à telle ou telle place et de dérouler, en quelque sorte, toute notre existence de manière réglée, il nous laisse le choix. Et il nous laisse le choix, finalement, qui est le choix fondamental de chaque individu, c'est le choix d'être humain.
Donc ça veut dire, pardonnez-moi, que la grandeur de Dieu se reconnaît à la possibilité qu'il nous donne de ne pas le suivre.
Oui, dans la mesure où, de cette manière, si nous le suivons, ce sera authentiquement un choix. Sinon, ce serait du déterminisme, c'est-à-dire qu'il nous aurait créé comme étant divinisable et, par une voie strictement naturelle, nous le ferions.
Ah, ça veut dire que si on ne suit pas le chemin que Dieu nous propose, on ne choisit pas de ne pas le suivre. Le mal n'est pas un choix, chez Pic.
Alors,
le mal au sens, le fait d'abonder dans le sens de la matière, et de se détourner, de ne pas convertir son regard, je ne sais pas quel est le vocabulaire qui correspond, et donc de ne pas tourner l'œil vers des vérités supérieures, à partir du moment où on fait ça, on ne choisit pas ?
Si, on choisit aussi de descendre, c'est-à-dire qu'on a choisi, par exemple...
On est responsable de ça.
On est responsable de ça, c'est-à-dire qu'on a choisi les passions, on a choisi le corporel, par exemple, plutôt que le spirituel. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent orienter ce choix. Soit l'on est authentiquement méchant, on choisit l'animalité, mais c'est assez rare, souvent c'est un défaut de connaissance, c'est-à-dire qu'il faut aussi, et c'est ça l'intérêt de la lecture de multiples théories, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une connaissance qui se développe, avoir un intellect qui est capable de se réaliser pour pouvoir correctement choisir. C'est-à-dire pour pouvoir choisir, il faut avoir un maximum de possibilités de choix.
Mais est-ce qu'on choisit quand on choisit en ignorance de cause ?
Eh bien, oui, on choisit toujours. C'est-à-dire que c'est toujours librement qu'on va descendre à l'intérieur d'une voie et...
Donc, pardon, pour parodier Socrate, on peut être méchant volontairement.
D'une certaine manière, oui, on peut être méchant volontairement.
Nul n'est méchant volontairement dans la mesure où quiconque est méchant ignore ce qu'il devrait faire pour ne pas l'être.
Oui. Dans ce cas-là... On peut être méchant volontairement, entre guillemets, je ne sais pas si la formulation conviendrait exactement à la pensée de Pic, mais en tout cas, nous avons quand même des indices sur ce qu'il faudrait faire, puisque la différence entre les Grecs et les Latins chrétiens, c'est tout simplement le fait que nous avons un guide qui est la Bible, et qui donc nous indique une certaine voie à suivre, c'est-à-dire que les recommandations sont déjà données, il y a un texte, et donc à partir de là... on ne peut pas véritablement ignorer ce texte. Donc on se détourne d'une certaine manière, consciemment, de cet héritage-là.
Ça. Ce mélange de l'éloge de l'humain et des louanges divines produit un texte qui est très frappant dans la mesure où on a le sentiment que la grandeur de Dieu est assurée donc par cette liberté que l'on peut avoir de le choisir ou bien de choisir de s'en détourner. Et Pic propose ni plus ni moins aux humains de devenir les compagnons des anges, de gravir donc les marches de l'échelle jusqu'à devenir les compagnons des anges.
Nous qui cherchons sur terre à égaler la vie des chérubins, dominons les élans des passions par la science morale, dissipons grâce à la dialectique les ténèbres de la raison.
Nous purifierons ainsi notre âme en la lavant des souillures de l'ignorance et des vices, de crainte que les passions ne déchaînent leur bacchanal et que la raison mal avisée n'en vienne à délirer.
Alors, l'âme bien disposée et purifiée, nous la baignerons de la lumière de la philosophie naturelle pour la rendre enfin parfaite par la connaissance des choses divines.
Là, il me semble avoir des accents qui sont des accents très augustiniens. C'est-à-dire que saint Augustin va présenter différents degrés de la paix.
Je ne crois pas qu'il le cite pourtant dans son discours, saint Augustin.
Non, mais néanmoins, cette thématique de la paix est classiquement organisée autour de la pensée augustinienne qui va considérer eh bien, que tout d'abord, il y a plusieurs degrés de paix. Et que tout d'abord, il faut commencer par faire la paix avec son corps. C'est-à-dire qu'effectivement, notre corps est un corps passionnel, un corps qui est tiraillé en toutes directions et qui, effectivement, est comme un conflit. Donc il faut fonder cette paix corporelle qui permettra par la suite, alors il y a énormément de degrés chez Augustin, mais une paix de l'âme fondée sur la paix du corps, puis une paix de la cité, etc. C'est-à-dire qu'on a une hiérarchie des paix.
Oui, chez Pic d'ailleurs on passe ensuite à la paix universelle. Hein.
Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit de penser la communauté de tous les hommes aussi au final, mais cette communauté doit avoir un fondement premier, qui est d'abord de faire la paix avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut se constituer en tant qu'individu, comme ayant en quelque sorte une seule direction, une seule visée, et ne pas se laisser aller à l'éclatement des passions.
Où on retrouve l'idée que l'homme est un microcosme qui reflète la totalité du monde, et que par conséquent faire la paix avec soi-même est la condition sine qua non de la paix universelle.
Oui, dans la mesure où la problématique qui va se jouer ici, c'est celle de l'individualité. Qu'est-ce qui fait que nous devenons un individu. Eh bien, nous devenons un individu à partir du moment où nous sommes capables de réinscrire à l'intérieur de nous-mêmes une unité qui est l'unité de Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés. Et donc, à ce moment-là, il s'agit d'essayer de laisser à la matière le problème de la diversité pour nous tourner vers ce qui, en nous, est le facteur d'unité, c'est-à-dire l'âme. Et ce retour de l'âme sur elle-même, qui est une thématique néoplatonicienne très classique depuis Plotin, ce retour de l'âme est quelque chose qui permet l'unité parce qu'elle regarde toujours vers le haut, elle regarde vers son créateur et donc réussit à organiser toutes ses passions dans une seule direction, qui est la direction de l'un.
Ô Père, la discorde est en nous de multiples façons. Nous avons en nous des guerres intestines et pires que des guerres civiles. Mais si nous les rejetons, si nous nous attachons à cette paix qui nous entraîne si haut qu'elle nous établira parmi les élus de Dieu, seule la philosophie morale les contiendra, puis les apaisera tout à fait en nous. Tandis que si notre homme n'a fait que demander une trêve aux ennemis, il devra réprimer les emballements effrénés de la bête multiforme, les menaces, les colères et les fureurs du lion.
Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de détruire les passions, mais de les canaliser.
Voilà, il faut
toujours... de les ordonner.
Voilà, c'est plutôt une théorie qui serait celle de l'harmonie en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut, disons, non pas rejeter complètement le corporel, mais essayer de l'harmoniser avec le spirituel. Pourquoi ne faut-il pas rejeter le corporel ? Là, Pic est très aristotélicien, et bien tout simplement parce que les sciences naturelles passent par l'expérience, passent par le domaine de la nature.
Oui, on a besoin du corps. Hein.
Nous avons besoin du corps. Je veux dire, ce n'est pas une espèce de contemplation absolument purement intellectuelle. Il s'agit de quelque chose qui va être reçu à partir de notre perception, à partir des connaissances que l'on peut acquérir dans notre vie d'humain en tant que tel, c'est-à-dire qui prend aussi en compte la dimension corporelle.
Alors, il est aristotélicien dans la mesure donc où il prend en compte cette dimension corporelle, où il fait du corps un point de départ, à la façon dont Aristote pouvait faire de l'expérience, puis d'une collection d'expériences, puis par induction du passage de ces expériences à une vérité plus générale, le point de départ de la connaissance. Donc en cela, il est aristotélicien, mais alors il n'est pas du tout platonicien, dans la mesure où on peut tirer de la lecture de Platon l'hypothèse davantage d'une guerre civile entre l'âme d'un côté et le geôlier de l'âme qui serait le corps, cette prison chez Platon. Donc il y a, cette fois-ci, chez Pic, un héritage qui est plus aristotélicien que platonicien, dans la mesure où il accommode le corps et l'âme. La paix ne passe pas par la destruction ou l'abandon du corps, mais par sa domestication, on peut dire.
Élevé à un très haut poste de veille, mesurant à l'éternité ce qui est, ce qui sera et ce qui a été, contemplant la beauté primordiale, Nous serons les oracles apolliniens de l'un, les amants ailés de l'autre, jusqu'à ce que, touchés enfin d'une ineffable charité, comme transpercés par l'orgasme, mis hors de nous-mêmes comme des séraphins ardents et emplis de la présence divine, nous ne soyons plus nous-mêmes, mais celui qui nous a fait.
C'est étrange ce lien qu'il fait entre, comme transporté par l'orgasme, c'est un jeune homme de 23 ans qui parle et qui a eu son lot de plaisir, ce transport orgasmique et cette fusion en Dieu, cette union en Dieu.
C'est une théorie qui est avant tout une théorie de l'amour, c'est-à-dire que Pic va mettre en place, parallèlement on pourrait dire à cette hiérarchie de l'être, une hiérarchie des amours, c'est-à-dire que nous partons au niveau de l'amour, là aussi au niveau bestial. Nous pouvons l'élever quelque peu, nous passerons à ce moment-là dans l'amour courtois, dans quelque chose qui va valoriser avant tout le corps et la sensation avant de passer dans le domaine spirituel. Mais néanmoins, eh bien, ce que nous révèle, disons, le Nouveau Testament, c'est que Dieu est amour. Donc, à partir de là, il y a plusieurs dimensions de l'amour. L'amour peut être bien sûr corporel, mais ce n'est pas le plus haut degré de l'amour. Donc là encore, il peut nous faire atteindre une certaine jouissance, mais ce n'est pas le degré ultime de la béatitude.
Bien sûr, mais la forme de jouissance que procure le fait de faire l'amour ne nous éloigne pas du divin. Aurait plutôt tendance à nous en rapprocher, même si c'est un premier pas.
Le risque, c'est de s'enfermer justement dans cette dimension de l'amour strictement corporel. C'est-à-dire que, bien entendu, ce que va valoriser Pic, c'est...
Je ne dis pas qu'il faut s'en tenir là, mais est-ce qu'il...
Disons que je ne sais pas si c'est un point de passage obligatoire. Il se trouve qu'effectivement, pour les penseurs de l'époque, il y a toujours beaucoup de tentations de partir de l'amour courtois, de toute cette poésie qui fleurit depuis très longtemps en Europe, et qui vante évidemment cette partie de l'amour qui est plus naturelle. Néanmoins, on se rend compte que généralement le parcours de ces auteurs est un parcours qui commence par la lecture de ces poètes, qui part de l'amour courtois, mais qui progressivement va se transformer en plusieurs étapes. On peut avoir un amour de la philosophie par la suite, c'est-à-dire de la dimension des choses intellectuelles, pour finalement arriver à l'amour divin. Disons que, je ne sais pas si on peut dire que la traversée de l'amour corporel est nécessaire. Néanmoins, effectivement... Elle n'est pas contradictoire, puisqu'il s'agit de remonter une échelle, eh bien, nous pouvons partir au premier barreau, et à partir de là, partir de l'amour le plus corporel, à la limite le plus animal, en sachant très bien que nous sommes là à un début, mais qu'il y a un objectif à atteindre, qui est cette fusion avec le divin, cette vision divine, qui donnera ici une dimension absolue, en quelque sorte, à cette activité orgasmique qui nous extrait de nous-mêmes, qui nous fait perdre en quelque sorte notre individualité pour nous inscrire à l'intérieur de la totalité qu'est Dieu.
C'est-à-dire que l'inconvénient de l'orgasme, c'est qu'il procure une telle félicité, ici-bas, qu'il peut justement fasciner pour lui-même et donc nous détourner de ce dont il n'est que le début.
Bien entendu, c'est-à-dire que c'est un masque de quelque chose de plus grand. Mais le risque du masque est qu'on ne puisse jamais l'enlever, et donc à partir de là, que l'on ne puisse pas, que l'on s'arrête.
Le masque s'ignore comme marchepied d'une vérité
plus
haute.
C'est-à-dire que l'important est que l'on voit cette échelle. Donc il faut enseigner les hommes, il faut leur montrer qu'il y a de plus hautes vérités, qu'elles ne sont pas réservées nécessairement à une élite, bien qu'il y ait parfois un certain aspect, disons, caché dans la doctrine de Pie, qu'il le revendique à de multiples reprises. Mais néanmoins, il faut essayer d'enseigner les hommes, il faut leur montrer que l'on ne peut pas en rester à cette dimension corporelle, que l'humain est plus que cela. Donc c'est ça finalement qui fait la dignité de l'homme, c'est le fait qu'il doit voir avant tout sa liberté. C'est-à-dire sa liberté de ne pas être simplement un corps, de ne pas être simplement un animal, et de s'élever vers des dimensions plus intellectuelles. D'ailleurs, dans les descriptions qui sont faites dans l'embryologie de la fin du Moyen-Âge, on se rend compte qu'on va décrire l'embryon comme passant d'abord d'un état matériel à un état de plante, où il va se développer comme un organisme végétatif, puis ensuite il deviendra animal. Bref, il passe par tous les degrés de l'échelle du matériel jusqu'à recevoir l'intellect qui lui est donné directement par Dieu et qui le fera individu humain.
C'est étrange d'ailleurs quand on pense que le catholicisme, au sens le plus traditionnel du terme, sanctifie la vie au point justement de s'indigner de l'avortement. de lire chez un penseur chrétien le fait que l'homme parcourt son chemin qui le conduit à sa propre humanité, donc devient ce qu'il est, pour reprendre une expression aristotélicienne, nietzschéenne plus tard, mais d'abord aristotélicienne, l'homme devient ce qu'il est en s'affranchissant de la biologie, si j'ose dire, au profit d'une conquête de l'esprit. C'est frappant de voir qu'on peut tirer de ces textes que l'embryon n'a pas plus de dignité qu'une plante.
C'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Thomas d'Aquin. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de la théologie chrétienne. C'est-à-dire le fait que, effectivement, dans la mesure...
Le droit à l'avortement.
Je n'irai pas jusque-là, je ne pense pas que le problème se pose en ces termes, évidemment, à l'époque. Mais c'est vrai que si on regarde le côté strictement théorique au niveau de cette analyse de l'embryon, eh bien on se rend compte qu'effectivement, dans la mesure où l'intellect, ce qui fait notre humanité, n'est donné par une grâce divine qu'à la fin d'un temps de gestation, parce que bon, on s'appuie sur des textes aristotéliciens, c'est-à-dire qu'il faut que tous les organes aient été cuits, de manière correcte, et le cerveau est le plus long à cuire. Donc il arrive en dernier, et c'est là où va reposer enfin la possibilité de se voir influer un intellect. Donc pendant tout ce temps où l'intellect n'est pas encore influé, eh bien nous n'avons pas un humain. Nous n'avons finalement qu'une plante, au mieux un animal. Alors on pourrait dire dans ce cas-là que oui, mais dès le début, dans la mesure où... l'homme est engendré par l'homme, dans la mesure où nous sommes dans un processus qui a une finalité particulière, on peut considérer que dès l'instant de départ, eh bien, il y a la dignité de l'homme qui est déjà présente. D'où l'importance du quasi-plante, c'est-à-dire tout est dans le quasi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment se permettre de dire qu'il s'agit d'une plante. Pourtant, au niveau strictement biologique, c'est de cela dont il s'agit. Donc, on a ici une espèce de problème assez délicat à gérer, parce que...
Oui, effectivement, oui.
Si on veut s'interroger bon, pour cette histoire de l'avortement, eh bien, il faudra dire à ce moment-là que soit on considère que ce n'est pas un homme tant que l'intellect n'est pas donné, donc il n'y a pas de question à se poser.
Et de ce point de vue, on n'est pas hérétique.
On l'est dans la mesure où ce n'est pas ça qui va prévaloir, c'est essentiellement l'idée qu'il y a une finalité à partir du moment où la gestation commence. Donc c'est la dignité, nous l'avons en puissance, entre guillemets, dans la mesure où, contrairement aux plantes, lorsque l'embryon passe par cette phase de transition qu'est la plante, Dante a une très belle expression, il dit « elle n'est encore qu'en chemin ». C'est-à-dire que on est sur un trajet et ce n'est pas là où se termine la finalité. Donc les puissances qui sont à l'origine dans la matière ont encore du trajet à faire et se destinent à devenir un humain. Donc du point de vue de la finalité, on doit refuser évidemment de parler de plante ou de matière. Du point de vue de la biologie par contre, eh bien, effectivement... c'est de cela dont il s'agit.
Pic lui-même a été traité comme un hérétique. Je crois que le discours se fait en deux parties, le discours de la dignité de l'homme. Il commence par énumérer les raisons qui, selon lui, l'ont forcé, pour son bonheur d'ailleurs, l'ont contraint à l'étude de la philosophie. Et puis ensuite, il décrit de façon assez troublante ses contemporains. Et il dit il y a des gens qui désapprouvent en lui-même le genre de la dispute et cet usage de débattre publiquement des doctrines, affirmant qu'il sert beaucoup plus à faire étalage d'intelligence et d'érudition qu'à acquérir une connaissance approfondie. C'est un portrait finalement assez contemporain, puisque Pic, tout chrétien qu'il soit, et quelle que soit la théologie finale qu'il met en place, finalement, Pic est quand même, se présente là, comme le pourfendeur de ceux qui ne veulent pas en débattre.
Oui, parce que c'est uniquement à partir du moment où on peut confronter les opinions que la vérité va pouvoir naître. Ce qui apparaît chez Pic ici, c'est quelque chose qui deviendra extraordinairement manifeste chez Montaigne. Montaigne considérant eh bien, que la grandeur de notre raison ne vient pas dans le fait qu'elle peut être extraordinairement forte, puisque si on regarde le livre 12 des essais, l'apologie de Raymond Sebond, on se rend compte que la raison est très faible. Mais elle tire sa force, en quelque sorte, de toutes les doctrines dont elle peut débattre, qui sont comme autant d'arc-boutants, en quelque sorte, qui tiennent cette raison en elle-même faible. Donc Montaigne, lui, va présenter justement cette force de la raison en disant « elle n'est pas forte en elle-même, elle est forte parce que, étant capable de manipuler énormément de doctrines, eh bien, en quelque sorte, en les comparant, elle va trouver, sinon la vérité, du moins les raisons pour éviter le maximum d'erreurs. » Donc plutôt que de se focaliser sur une seule doctrine, alors il y a toutes les pages de Pic, évidemment, qui sont magnifiques sur ces gens qui s'enferment dans une école, dans une secte, on pourrait dire pour reprendre le terme original, eh bien ces gens-là, finalement, ont des œillères. Ces gens-là ont des œillères parce qu'ils ne voient qu'une position. Et quelle pauvreté il y a lorsqu'on ne voit qu'une position. La richesse, justement, c'est la capacité de discuter, c'est la capacité de...
Pascal qui disait, à la fin d'une vérité, il faut toujours envisager la vérité opposée.
Exactement, c'est-à-dire que c'est uniquement par la force de la contradiction que les choses vont pouvoir atteindre à une plus grande perfection. D'où l'importance de l'histoire de la philosophie, puisque la philosophie n'avancerait pas si on oubliait les philosophes ou si on n'en retenait qu'un de son histoire. Donc, Pic réinscrit en quelque sorte son propos dans celui plus large d'une histoire de la philosophie parce que, eh bien, on a découvert beaucoup de choses, nous sommes allés dans énormément de directions variées, certaines choses ont pu apparaître comme hérétiques, mais il faut néanmoins les considérer. D'une part parce que si l'erreur a déjà été faite, eh bien autant continuer à s'en souvenir pour réussir à l'éviter cette fois. D'autre part, eh bien, même chez ceux qui ont fait des erreurs, il y a toujours quelque chose de bon que l'on peut utiliser pour une doctrine de la vérité en général.
Il y a des gens qui désapprouvent en lui-même le genre de la dispute et cet usage de débattre publiquement des doctrines, affirmant qu'il sert beaucoup plus à faire étalage d'intelligence et d'érudition qu'à acquérir une connaissance approfondie.
Il y en a d'autres qui ne réprouvent pas ce genre d'exercice, mais ne l'approuvent aucunement dans mon cas. Parce qu'à mon âge, 23 ans seulement, j'ai eu l'audace de proposer une dispute sur les mystères les plus élevés de la théologie chrétienne, sur les plus hautes matières de la philosophie, et sur des doctrines inconnues dans la ville la plus célèbre et devant la vaste assemblée des hommes les plus savants. À ceux qui désavouent cette coutume de disputer en public, je ne répondrai pas grand-chose, puisque cette faute, si on considère que c'en est une, je la partage non seulement avec vous tous, mais aussi avec Platon, Aristote et les philosophes les plus célèbres de tous les temps.
On pourrait imaginer un Pic de la Mirandole contemporain qui, au lieu de parler d'Averroès, ou d'Aristote, ou de Platon, ou de Hénoc, parlerait des matérialistes, comme des criticistes, comme des, en prenant justement, là encore, dans chaque système, ce qui lui semble décisif, et en tout cas en accueillant chacune de leurs paroles.
À mon avis, c'est d'ailleurs ce que Pic peut nous apporter aujourd'hui de, sans doute, la partie de son œuvre qui sera la plus utile, c'est un petit peu cette affirmation de la nécessité de la discussion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la spécialisation des savoirs...
Il y a dans chaque école quelque chose de remarquable.
Voilà. Mais aujourd'hui, la spécialisation des savoirs fait que l'on a l'impression que les écoles se renferment peut-être plus que jamais sur certaines doctrines, certaines vérités. Alors, non seulement entre les différents savoirs, mais au sein de la philosophie elle-même, on a parfois l'impression eh bien, qu'il y a plus des querelles d'école qu'une véritable discussion et qu'un véritable parcours commun, à tel point que parfois certains se cloisonnent et tombent dans une certaine hermétique propre à une école. Alors qu'en fait, évidemment, la philosophie a toujours été vivante grâce à la discussion. Pic se met d'entrée de jeu dans la lignée des grands dialoguistes, évidemment qui étaient Platon en premier, puis Aristote, mais qui finalement était quelque chose aussi d'assez commun, genre les disputes médiévales étaient certes très formelles, beaucoup plus formelles que ce que va faire Pic, mais néanmoins étaient un lieu de débat d'idées, si l'on regarde les questions disputées dans les universités, malheureusement très peu éditées, mais c'est là où on a le véritable débat d'idées, et finalement les ouvrages qui nous sont parvenus par la suite sont, disons, des mises en forme du débat d'idées. Mais le débat d'idées existe derrière, on a tendance à oublier que, avant d'être porté à la manière d'un certain nombre de dogmes philosophiques, les idées étaient réellement débattues, les étudiants questionnaient les maîtres, et disons que leur pierre était apportée aussi à l'intérieur du débat. C'est-à-dire que ce qu'il veut enlever, c'est les conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts qui ne sont pas philosophiques. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on va prendre une position thomiste, par exemple à l'époque, c'est en vue de problèmes théologiques, mais aussi de problèmes politiques ou sociaux de l'époque. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire œuvre de réflexion véritablement, mais on va avoir un but, on veut utiliser l'argument à d'autres fins que l'argumentaire lui-même. Et ça, finalement, ça a toujours nuit à la philosophie, c'est-à-dire que...
Comme la surdité du militant nuit à la pensée.
Voilà, exactement, c'est avoir des œillères, être dans une école extrêmement figée et ne jamais discuter avec autrui, nous ne sommes même plus dans la philosophie. Je veux dire que la philosophie, avant tout, c'est cette discussion, avant tout, cette capacité à accueillir d'autres opinions, puisqu'il ne s'agit que d'opinions. Finalement, la vérité elle-même, si nous avions dû la trouver... Il faut espérer que nous l'aurions déjà trouvé depuis le temps où la philosophie...
Ou qu'elle nous aurait déjà trouvé.
Ou qu'elle nous aurait déjà trouvé.